Vous écoutez
RMC.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot. Gilbert Brisbois.
L'after qui continue en direct jusqu'à minuit comme tous les soirs sur RMC, l'after, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du football pense tout bas. Kevin Diaz est resté, salut Kevin.
Salut à tous.
Et Jonathan McCarty nous rejoint, salut Jonathan.
Salut tout le monde.
Vous connaissez les résultats Ligue 1, Nico vient de les rappeler juste avant la pub. On va principalement ce soir analyser Brest-Marseille, mais on dira un mot des autres, notamment pourquoi pas le match Nice-Strasbourg, Nice qui fait partie quand même des, sur le papier des grosses équipes de notre championnat. Et puis il y a eu quelques résultats étonnants aujourd'hui, Clermont qui est allé mettre une grosse baffe à Reims par exemple, Toulouse qui a fait la même chose à Troyes. On pourra parler également de Auxerre-Angers ou d'Ajaccio-Lens avec égalité et match nul. On n'hésitera pas à le faire. Et puis on ira peut-être en Espagne parce que le Real est en train de mal commencer son championnat. Après 38 minutes, il y a 1-0 pour Almeria, un promu, donc face au Real. Voilà, tu veux dire un mot du foot anglais parce que le foot anglais c'était chaud aujourd'hui.
À la bagarre.
Voilà, enfin, bagarre. Une bagarre.
C'est... Non, mais moi, chaud.
C'était bien. Les... sympa. Poignée de main et quelques échanges houleux entre Conte et Tourelle.
Plus Cristiano dire... qui exaspère tout le monde à Manchester.
Ah, bref. Là, ouais. On risque pas d'atteindre le point de retour très vite.
Pour le coup, qu'il est pas seul, c'est pas le seul à exaspérer tout le monde et c'est pas celui qui exaspère le plus, en tout cas, les supporters de Manchester. Mais le Real a fait quand même beaucoup tourner ce soir.
Ouais. Après la Super Coupe d'Europe.
Alaba et Modric notamment qui ne jouent pas.
Bon, en tout cas, on suit ce match. Dès qu'il y a but et marqué, je vous tiens informé. Allez, les 22h39, les 3 points pour démarrer l'after et structurer le débat jusqu'à minuit. De quoi va-t-on parler? C'est tout de suite.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Kevin, de quoi est-ce que tu veux parler?
Bah écoute, d'abord c'est de l'Olympique de Marseille parce que honnêtement c'était un match compliqué. Il y a eu quelques petits temps forts, mais j'ai vraiment pas aimé l'état d'esprit et surtout le plan de jeu des Marseillais. Pour moi, ils ont pas assez dominé et mis le pied sur le ballon. En deux, bah c'est qu'est-ce qui se passe avec Dimitri Payet quand même? Parce que je veux bien que Dimitri Payet ne soit pas du coup de Tudor, mais tu peux pas faire rentrer Alexis Sanchez avant lui. Non pas qu'il est pas bien rentré en soi, le Chilien, mais Sanchez vient d'arriver, Payet, il est là depuis le début de la préparation. Pour moi, c'est lui qui doit rentrer à la 45e. Et en 3, c'est juste reparler d'un des matchs de l'après-midi, parce que j'aime beaucoup et je vais suivre particulièrement, notamment par leur recrue, mais cette équipe de Toulouse, elle est vraiment intéressante à suivre.
J'ai le même troisième point.
Je l'attends, j'ai 3 points du coup.
Mon premier point, c'est que Brest peut s'en vouloir parce que Brest a eu la main mise sur le match. On démontre les statistiques, les nombres de tirs brestois est quand même superlatif par rapport au nombre de tirs marseillais. Donc Brest avait les moyens de gagner ce match. Il leur a manqué un petit peu de réussite, mais très bon match de Brest et ça sera difficile d'aller prendre des points à Francis Leblay. Le deuxième point, c'est le match de l'OM. Écoute, je pense que le Marseille a fait un très mauvais match. Il y a eu beaucoup de défaillances individuelles. Le niveau technique de pas mal de joueurs a été en dessous de beaucoup de de beaucoup de choses, de beaucoup de standards de ce que demande de jouer à l'Olympique de Marseille. On va en parler en détail, mais je pense que quand l'adversaire a compris comment bloquer l'OM, c'est-à-dire bloquer les couloirs, il va falloir que l'OM sache se réinventer. Et le troisième point, c'est le match de Toulouse. J'ai adoré le match des Toulousains avec un Ratao que j'ai trouvé vraiment très très fort une fois de plus, comme l'année dernière en Ligue 2. Et c'est 3 points amplement mérités avec une équipe spectaculaire, 3 buts. C'était vraiment une très belle après-midi pour le TFC.
Très bien, Marseille, on démarre là-dessus, bien sûr. Donc, vous avez globalement tous les deux été déçus par la performance marseillaise de ce soir. Quand tu dis prendre le jeu à leur compte, Kevin, tu sous-entends quoi?
Bah, je sous-entends que j'ai bien compris que Igor Tudor, qu'on découvre petit à petit, c'est un entraîneur qui aime les transitions, qui aime qu'il y ait de la verticalité dans le jeu marseillais, qui aime de la vitesse notamment dans les transitions. Ça, ok, il n'y a pas de problème. Mais si je compare avec le match de Marseille, il y a encore quelques mois, avec quand même pas mal de joueurs qui sont toujours dans cet effectif à Brest, où Marseille avait dominé le jeu, avait mis le pied sur le ballon, eh bien... Pour moi, quand tu es à l'extérieur, là, tu es face à une équipe quand même qui est une petite équipe de notre championnat, avec tout le respect qu'on leur doit. Mmh. Et j'avais l'impression que, notamment dans les 10 premières minutes, Brest avait beaucoup de respect pour l'OM. C'est-à-dire qu'ils les attendaient un peu bas et en gros, ils étaient en mode un peu putting ball sur le début du match. Mais Marseille, c'est pas une équipe qui aime beaucoup avoir le ballon, en tout cas qui veut aller très vite vers l'avant. Chaque récupération, faut que la passe elle soit verticale et la deuxième également. Mais du coup, t'arrives pas à installer et à peser vraiment sur le match. Je ne dis pas qu'il faut faire du Sampaoli parce que des fois, ça pouvait devenir ennuyeux, mais au moins l'OM avait le ballon, avait la possession, se créait pas forcément des millions d'occasions. Mais là, tu n'as ni la possession, ni les occasions. Et au final, dans un match comme ça, t'as pas grand chose. Alors, comme dit Jonathan, oui, ça passe par les côtés. Oui, Nuno Tavares et Jonathan Clauss, sont peut-être encore une fois les deux meilleurs ce soir. C'est pas pour rien qu'un est passeur pour l'autre qui est buteur. Mais il y a un moment, tu dois aussi montrer autre chose. Et après, pour moi, il y a des joueurs qui aujourd'hui n'ont pas le niveau de jouer à l'OM. Je veux pas m'acharner sur Balerdi. Mais moi, Balerdi.
Si on peut.
Moi, Balerdi,
je. Ouais, je sais pas, Jonathan, il nous disait il y a 10 jours que la défense centrale était meilleure que l'année dernière.
Sans Balerdi.
Non.
T'es pas parlé de Balerdi, moi.
Ah, pour moi, la défense centrale.
T'es parlé d'Mbemba et Gigot, mais pas de Balerdi.
Pour moi, la défense centrale, elle est bien en dessous de l'année dernière.
Pour moi aussi.
Pour moi, elle a rien à voir avec l'année dernière.
Parce que là, il y a un élément en plus, et qui est un élément négatif, c'est Balerdi.
Oui, mais il n'y a pas que Balerdi. Moi, j'ai toujours dit, bon, moi, Mbemba, c'est un très beau joueur.
C'est un bon match, on sort encore.
Pas un très beau joueur, pardon. Je retire.
C'est un bon joueur.
Ouais. Il a fait deux belles saisons, dont une grosse saison à Porto. Mais les deux premières saisons, c'était catastrophique à Porto. Et ça aussi, alors peut-être que les gens ne l'ont pas vu, mais moi, je l'ai commenté, je l'ai vu. Donc, j'ai quand même un sentiment très mitigé sur lui. Gigot, je vais pas me prononcer encore parce que je le découvre. Mais pour moi, déjà, t'as perdu Camara devant la défense ou dans la défense. C'est une perte énorme. Saliba, n'en parlons pas.
Bah oui.
Donc voilà. Donc pour moi, tu ne pourras pas être meilleur que l'an dernier. C'est impossible. Par contre, t'as gagné sur les côtés. Et j'ai l'impression quand même que Guendouzi et Rongier, ils étaient plus à l'aise dans le système de Sampaoli que maintenant. Maintenant, on va laisser un peu de temps.
Bah, le problème, c'est que sur la défense centrale, déjà, je le répète, hein, mais quand t'as un élément négatif qui joue, c'est compliqué. Et Balerdi, c'est catastrophique. Moi, j'ai jamais compris pourquoi Marseille avait mis autant d'argent sur ce joueur. Là encore, il peut causer un pénalty si le Doiron est un peu plus malin.
Et un rouge.
Un rouge aussi. Il défend
le Doiron qui, pour une fois, met les pieds carrés.
C'est vrai.
On en reparlera.
Ils défendent n'importe comment sur la majorité des actions. Donc moi, je continue de penser que l'arrivée de Chancel Bamba et de Samuel Gigot, bah c'est très 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 bien pour Marseille. J'ai bien aimé encore le match de Bamba, notamment les deux trois fois où il se projette vers l'avant, où il apporte vraiment un plus dans ses projections. Mais après, Balerdi, c'est pas possible. Et je le répète, la meilleure des solutions pour Marseille, c'est de proposer une année en plus de prolongation à Chelle Tatsar.
On va en parler parce que c'est dans les tuyaux.
Mais ensuite, pour parler du match, je pense que le problème, c'est que Brest, même si il y a eu 25 premières minutes où Brest a mis un petit peu de temps à se mettre au niveau, une fois que l'adversaire de Marseille a compris qu'il faut bloquer les couloirs, eh bien, c'est aux autres joueurs de profiter des occasions. C'est-à-dire que les couloirs sont bloqués. Duverne et Brasier, à chaque fois, faisaient un très gros travail sur les côtés. Il y avait Belkebla et Magnetti qui, à chaque fois, apportaient le surnombre défensivement pour bloquer Tavares et Clauss. Et le problème, c'est que ce soit Gerson ou Under, aucun en première mi-temps notamment n'a réussi à en profiter. Alors Under a fait preuve d'un déchet technique qui lui est totalement inhabituel. J'ai trouvé Gerson impatient et incapable de faire parler son habituelle très bonne vision du jeu. Et je pense qu'il y a eu pas mal de défaillances techniques individuelles au milieu de terrain qui font que Marseille a fait un match très très moyen. Après les changements, je t'en rejoins Kevin, j'ai pas vraiment compris. On sait qu'Alexis, il devait jouer une quinzaine de minutes tout au plus. Il le fait rentrer à la mi-temps. C'est vrai que c'est un message un peu curieux envoyé à Dimitri Payet. J'ai pas non plus compris.
Je dis curieux, moi je dis c'est un mauvais message.
Alors on va y revenir là-dessus spécifiquement.
J'ai pas non plus compris la non-entrée de Luis Suarez qui sort premier match, il met un doublé au Vélodrome. Les débuts sont réussis. Je pense qu'il faut absolument, surtout quand tu vois que Milik est pas dans son match, ben le faire participer. Donc les changements ont été un petit peu curieux. Après voilà, à la décharge de Tudor, et ça va être ma conclusion sur cette première partie d'analyse, c'est que le chantier reste énorme. Mais qu'il y a quand même un sacré effectif à l'Olympique de Marseille. Je pense toujours que l'effectif est bien meilleur que celui de la saison dernière, bien plus fourni. Il n'y a qu'à regarder le banc. Et il va falloir que Tudor trouve les ajustements nécessaires. Mais sur ce match-là, ça reste un match de début de saison, dans un stade qui est compliqué. Et je pense encore une fois que ce sera difficile d'aller gagner à Brest. Et il y a quand même du positif parce que le groupe est fourni qualitativement et quantitativement. Et il y a une marge de progression qui est énorme.
Hicham est avec nous, 32-16 supporters de l'OM. Hicham, bonsoir.
Bonsoir Gilbert.
Salut Hicham.
Bonsoir Kevin. Bonsoir Jonathan.
Bon, salut, ça permet de rappeler que le 32-16 est ouvert pour tout le monde, hein, supporters marseillais, brestois et tous les autres. Évidemment, n'hésitez pas à nous appeler. Oui, alors Hicham, t'es d'accord avec Kevin et Jonathan là pour l'instant ?
Oui, alors je suis plutôt d'accord. Effectivement, moi je pointerai pas la défense forcément comme le principal mal de ce match côté OM. Je trouve que collectivement, en fait, c'était pas très bon. C'était vraiment des individualités qui ont fait le boulot ce soir. C'était Klose, c'était Nuno Tavares, mais c'était pas tant l'équipe. Au milieu de terrain surtout, j'étais déçu de Guendouzi et de Rongier qui n'ont pas réussi à. Ils sont peut-être pas assez en forme encore. Ils sont peut-être pas encore à leur niveau. À leur
nerveux
niveau.
Les deux, très nerveux.
Ouais, nerveux, ouais, exactement. Et du coup, c'est ça qui manque. Ça manquait de dynamisme dans le jeu de l'OM.
C'est pas Under et Gerson qui t'ont plus déçu quand même au milieu.
Under surtout. Parce que Under, dès qu'il avait un ballon, il faisait n'importe quoi avec. Ouais. Il se trompait. C'est que d'erreurs techniques. Gerson, comme tu l'as dit, Jonathan, la semaine dernière, c'est un diesel, il faut qu'il monte en puissance, etc.
Ça, on le sait, ouais.
Mais Under, ah, il m'a déçu. Mais il est sorti tôt, donc je peux pas trop lui en vouloir.
Ça fera un mi-temps catastrophique, hein.
Voilà, absolument. Mais il est sorti, donc après, c'est pas lui qui est responsable du reste.
Après, non, non, mais tu sais, moi, Hicham, je parlais de la défense pour partir du défense, milieu, attaque. Je ne pense pas, en effet, que c'est qu'un problème de défense. En effet, c'est global. Mais j'ai quand même ce sentiment, ça peut être qu'un sentiment, mais que finalement, Guendouzi et Rongier étaient très à l'aise dans le système et le langage et le projet de jeu, Gilbert, que leur proposait Sampaoli, mais que dans le langage que leur propose, c'est comme s'ils parlaient une autre langue avec Igor Tudor, tu vois. Ils avaient appris à parler espagnol avec Sampaoli, et là, Igor Tudor, il arrive en croate ou moitié italien, et que vraiment, ils ont du mal à rentrer dans ce que demande le coach. Avec le ballon, sans le ballon, on voit qu'ils essaient, ils sont de bonne volonté, mais pour l'instant, il faut peut-être laisser du temps, c'est pas ça. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus, parce que j'ai quand même fait partie d'effectifs où t'as un entraîneur qui arrive comme ça à poigne, mais je suis désolé, les signaux qui sont envoyés sur le cas Payet, moi je ne suis pas à l'intérieur, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas s'il est volontaire, je ne sais pas s'il fait les efforts. Mais déjà Milik, pour le coup, moi je l'ai toujours défendu, mais là il prend un jaune, il aurait même pu prendre un deuxième jaune en première mi-temps. Pour moi, tu dois le sortir à la mi-temps pour pas prendre de risque. Donc tu peux sortir Milik et Under, mais je ne comprends pas que tu attendes si longtemps pour faire rentrer Payet. Ou alors, il y a clairement un problème.
Alors après, sur Dimitri Payet.
Bon, puisque vous voulez aborder le sujet, allons-y. Juste ton avis, Hicham, là, sur l'utilisation de Payet.
Bah, Payet, oui, effectivement, c'est un peu étrange cette gestion, surtout faire rentrer Sanchez avant, je comprends pas. Je pense que Payet aurait dû rentrer, mais en fait, moi, je pense qu'il aurait fallu faire rentrer Sanchez ou Payet, mais pas les deux. Deux meneurs de jeu comme ça qui sont certes techniques, mais qui sont peut-être un petit peu lents.
Il jouait neuf, Sanchez.
Oui, mais c'était gênant même. Je préférais Luis Suarez en neuf, ça aurait été quelque chose, tu vois, parce que Luis Suarez, il a apporté une profondeur la semaine dernière. Il était hyper intéressant.
Du dynamisme et de la fougue physiquement.
Tout ce qu'il a manqué ce soir.
Ouais. Mais alors, sur Dimitri Payet.
On manque de respect à Payet, les gars, ou vous comprenez?
Moi, je comprends parce que j'ai vu tous les matchs de préparation, il n'a pas été bon. Il était vraiment en dessous physiquement. Sur son entrée la semaine dernière contre Reims, je ne l'ai pas trouvé tranchant. Et là, il a quand même eu du temps de jeu et j'ai trouvé qu'il était pas du tout en forme. Il a la ramasse physiquement. À un moment, il y a une perte de balle, mais vraiment évitable au milieu de terrain. Il fait aucun effort pour se replacer au pressing. Il y a eu deux trois phrases comme ça où on l'a vu faire zéro effort. Et malheureusement, on sait que Tudor demande quand même à ses joueurs offensifs de se replacer, d'aller presser, d'avoir une certaine débauche d'énergie. Dimitri Payet, je pense qu'à l'heure actuelle, il est incapable de faire ça. Je sais pas s'il encaisse mal la préparation, mais je pense qu'il le sait. Après, par rapport à ce qui s'est dit en conférence de presse de la part de Payet, de la part de Tudor, etc., tout me laisse à penser que les deux en ont quand même parlé. Je pense que Tudor n'est pas le plus idiot au monde, qu'il connaît l'influence de Dimitri Payet dans le vestiaire. Et je pense que Payet sait très bien que à l'instant T, il n'est pas en mesure de vraiment apporter beaucoup dans ce genre de système.
Moi, je suis désolé, mais Payet, là, même si je peux aller dans ton sens, quand tu dis qu'il manque de rythme, mais justement, quoi de mieux que jouer 45 minutes alors que tu mènes au score à Brest, voilà, là c'était le moment de lui donner 45 minutes. S'il n'avait pas été bon sur 45 minutes, là tu pouvais commencer à légitimer le fait qu'il soit remplaçant. Mais il y avait pas meilleur moment. Pour moi, il a raté
le fait que Sanchez rentre avant Payet. Je ne comprends pas. C'est très bizarre parce que surtout que avant le match, Tudor avait dit oui, Sanchez jouera quelques minutes. Il n'était pas censé jouer une mi-temps entière. Et on a très bien vu qu'il n'avait pas une mi-temps entière.
Il a même avec Veretout. Hein. Parce que Veretout, il venait de débarquer.
Oui, mais il rentre à la 70e.
Oui, il rentre quand même. Dernière. Tu vois ce que je veux dire?
Il joue 20 minutes. Ça
après, il y a peut-être des trucs qu'on ne sait pas avec Payet. Hein. Peut-être qu'à l'entraînement, il ne faut rien. J'en sais rien. Enfin, je ne sais pas.
C'est possible, je ne sais pas.
Tu vois, il y a peut-être une explication qu'on ne connaît pas.
C'est pareil pour Luis Suarez. Tu dois le faire jouer. Il a mis un doublé la semaine dernière. Là, il y a des espaces, tu mènes à zéro. Quoi de mieux pour Luis Suarez? Il va aller harceler la défense. Enfin, je sais pas. Après, bon, encore une fois, c'est lui qui les voit à l'entraînement. Il sait peut-être mieux que nous.
Moi, c'est l'entrée de Bakambu qui me dérange un petit peu.
Voilà, l'analyse comme ça après match, pour moi, l'OM a raté son match, mais Tudor a raté au moins ses changements.
Merci Hicham.
Merci Hicham.
Merci beaucoup les amis. C'est un plaisir d'intervenir dans l'after.
Ben, bonne soirée. Allez, t'es le bienvenu. T'es le bienvenu, bien sûr. Je rappelle que la messagerie direct sur est également là pour vous tous. Hein, si vous voulez nous envoyer un message. Alex, par exemple, dernier message là qui nous dit très beau match de Brest. On va en parler de Brest tout à l'heure. On va en parler. Exact. Pour l'instant, on reste sur l'OM avec Samir au 32-16. Salut Samir.
Oh là là.
Bonsoir Gilbert, bonsoir Jo et bonsoir Kevin.
Samir,
on est
ce soir là.
Pourquoi?
Samir, c'est une star.
Ah bon?
C'est le présentateur du premier podcast français sur le MMA, le podcast Octogone. Et invité régulier du RMC Fighter Club.
C'est vrai, Samir?
Ouais, c'est vrai, Gilbert, et coureur comme toi d'ailleurs.
Mais dis-moi, est-ce qu'il y a un truc qui m'intéresse quand même, petit aparté. Jonathan Bacardi, il s'y connaît vraiment en bagarre?
Ouais, il s'y connaît, il pratique et j'ai vu qu'il avait pris un sacré bon level au sol là, donc il est bon, il vous ment pas,
Alors par contre,
parce que tu sais comme il nous raconte les trucs, des fois on se dit ça, peut-être qu'en fait comme moi j'y connais que dalle, peut-être il me pipote.
Non,
après tu connais Jonathan, il aime bien surjouer pour amuser un peu son auditoire, mais non, il touche, il y a pas d'escroquerie.
Bon, et par contre, en course, je vous entendrai bien parce que Samir, il fait des trucs, il fait des sorties tous les jours, 13-14 bornes sur le soleil, il est barjot.
Ah bah c'est bien. Par contre, Jonathan, en course à pied, c'est pas la peine. Hein. Je le dis tout de suite. Avec ses pieds en canard, là, il peut rien faire.
C'est pas faux. Ouais.
Il a la même démarche que Verratti.
C'est pas faux.
Bon, on était sur Payet, là. T'en penses quoi, toi?
Alors, j'ai pas trop entendu ce que vous étiez parce que j'étais avec le standardiste. Après, pour Payet, je me suis fait la même interrogation que vous. C'est que c'est pas normal qu'une recrue comme Alexis Sanchez rentre alors qu'il vient d'arriver et Payet a fait toute la prep. Je me posais, j'entendais, je crois que c'est Kevin qui disait ça par rapport aussi à Luis Suarez. Je sais pas quelle semaine d'entraînement il a pu faire pour être privé de match comme ça, mais moi, ce qui m'inquiète par rapport à cette équipe, c'est ce que je disais. De toute façon là en off, c'est que on a une équipe en fait, on a les mêmes interrogations que la semaine dernière. Alors comme la semaine dernière, je dirais qu'il faut pas tirer de conclusion hâtive. Par contre, je trouve que contrairement à l'année dernière, même si voilà, Sampaoli est parti et qu'on en fait le deuil, c'est que l'année dernière, tu avais du jeu à l'intérieur, on avait d'autres solutions à l'intérieur pour proposer autre chose. Or là, je vous ai entendu dire et je suis d'accord avec vous. Si on bloque les extérieurs, et on l'a vu avec Klos et avec Tavares, quand tu bloques les extérieurs, tu n'as plus de solution à l'intérieur. On a Guendouzi que je n'ai pas trouvé super bon. Gerson nous fait la même que l'année dernière avec une préparation qui est difficile à digérer. Donc c'est plutôt ça qui m'inquiète. Après moi, je n'ai pas envie de flinguer Tudor. Mais je trouve qu'on manque de qualité à l'intérieur et on va vite se faire exposer en fait. Brest, ils ont.
En fait, peut-être qu'on manque de, peut-être que l'OM manque de joueurs à l'intérieur, comme tu dis. En fait, c'est le système qui fait ça.
Alors plutôt que quantitativement, Gilbert, quantitativement, je pense qu'on a ce qu'il faut. Qualitativement, je rejoins Jonathan, on est une très très bonne équipe. Après, on a un point noir et puis. Derrière, t'as Balerdi, et je sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression que l'équipe sent la frousse. Derrière, t'as Balerdi, tu défends pas, tu joues pas au milieu sereinement quand tu sais que derrière, t'as un point aussi friable que celui de Balerdi. Et puis après, arrière-gauche, après, tu affaiblis
les équipes
à mesure du temps.
Mais c'est ça, Samir, en fait. Tu vois, tu disais, on se sent fébrile. Mais c'est comme quelqu'un qui a un gros buste, qui est très costaud du haut et qui a des jambes toutes frêles. Il y a un moment, l'équilibre d'une équipe, il faut qu'il soit cohérent. Et quand tu dis que ça manque à l'intérieur, oui, il y a moins de jeux intérieurs que l'an dernier. Mais c'est aussi parce que quand tu veux trouver la verticalité, c'est plus facile d'aller sur les côtés puisque c'est là que sont les espaces.
Ouais,
mais c'est pas pour rien que les équipes du Barça, de Guardiola, de Manchester City, elles arrivent à mettre le pied sur le ballon, mais en faisant une progression qui est lente. Si tu veux avoir la progression dans le dernier tiers du terrain, tu dois être lent pour monter le ballon. Tu peux pas aller à 2000 à l'heure et aller dans l'entonnoir où il y a les 11 joueurs adverses. Tu vois ce que je veux dire?
Je vous coupe parce qu'il y a Igor Tudor qui est en conférence de presse. On va écouter le début de ses réponses. Ah, c'est en anglais.
And I think that the problem was because we were a little bit thinking that the game is over.
Vous pensez que le match était terminé, c'était le problème.
But in the French league, all the games are difficult, especially away.
Dans la Ligue 1, tous les matchs sont durs.
So in the end, result who is, I think, un result realistic.
And
we take this point and we go back to work.
On prend ce point, on retourne au travail.
Ouais, la semaine dernière, il a répondu en italien, là en anglais. Ouais. Puis Jonathan Bagardi s'est déclaré.
Il a mal traduit. Il a dit, on a été réaliste. Non, il a dit, c'est un résultat réaliste, c'est-à-dire que c'est un résultat logique.
Moi, j'ai pas tout entendu le début de la phrase.
Je pense pas qu'il va nous faire des révélations fracassantes. On écoute en régie. Hein, si jamais il parle de Payet, par exemple.
Le truc qui me fait réagir surtout, c'est les gars, Samir et Kevin et Gilbert, c'est que. Balerdi, on sait qu'il est pas bon. La semaine dernière, il nous a fait offert beaucoup de frissons. Là encore, ce soir, c'est catastrophique. Mais qu'est-ce que fait Isaac Touré en tribune? Il a fait toute la préparation.
Ah, juste puisque tu parlais de Khaled Tchar tout à l'heure.
Très bon.
Info du jour de Florent Germain. Si jamais Khaled Tchar reste, il a une offre de prolongation de contrat d'un an.
Mais c'est ce qu'il
faut
faire.
En fait, parce que Longoria donc ne veut pas qu'il parte libre, parce que depuis Camara, il est énervé, il veut plus qu'il y ait des joueurs qui partent libres. Donc, Longoria lui a proposé une prolongation d'un an, et là, on va voir ce qui se passe, mais il pourrait être relancé finalement, Khaled Tchar, s'il reste ici.
Moi, je préférerais qu'il parte quand même pour aller voir ailleurs, et je pense qu'il a besoin d'une autre aventure. Je suis d'accord avec Jonathan, c'est vrai que le petit jeune, il avait fait une très très bonne préparation. Je comprends pas pourquoi on le voit pas du tout, surtout pour faire jouer
en tribune,
encore une fois, sans vouloir insister, Balerdi. Mais alors juste pour revenir sur ce que tu disais, c'est pas la première fois que j'entends ça, mais il est bien gentil, Longoria, il a plein de qualités. Je sais pas s'il voit l'évolution du foot en ce moment.
Oui, tous les joueurs veulent partir libre.
Tous les joueurs veulent partir libre. De plus en plus de joueurs vont partir libre. Je vois ce qu'il veut faire. Je vois pourquoi il le dit.
Qui est intéressant à activer, c'est qu'il y a la Coupe du Monde. Et si tu dis à Khaled Tchar qui n'a pas une place assurée avec le groupe croate, tu lui dis écoute Coco, tu vas aller jouer avec la réserve jusqu'au Mondial. Oui, tu vas louper la Coupe du Monde. Et je pense que ça peut le faire réfléchir. Surtout qu'on sait que le marché des transferts va être animé après la Coupe du Monde. Tu peux t'entendre avec l'état de ça en disant écoute tu re-signes et puis on voit ce qui se passe après la Coupe du Monde. Autant que à la Coupe du Monde il y a un blessé dans les titulaires de la défense croate, tu joues, et si t'as une belle offre, et ben on se met d'accord, tu t'en vas, on te laisse partir en janvier. Mais honnêtement, pour le budget qui est à la disposition de l'OM, ça sera très difficile de trouver un défenseur meilleur que Tchaletatsar. On peut dire ce qu'on veut de lui, moi j'ai beaucoup de choses à lui reprocher, notamment son attitude après ses transferts avortés, mais en termes de qualité pure, ça va être dur de trouver un défenseur de cette qualité sans mettre 20 millions d'euros sur la table.
Oui,
donc je pense que c'est dans l'intérêt des deux parties. Marseille a ce côté le bâton. On peut penser que c'est un petit peu abusé, mais le bâton de dire tu veux pas re-signer, la Coupe du Monde, tu dis adieu. Et je pense qu'il faut jouer là-dessus. C'est le club qui est plus important là-dessus.
Moi, je pense qu'il est déjà.
Il n'y a eu aucune question sur Payet, ça tu dors. Hein, donc je sais pas ce que font les journalistes marseillais. Il dort. Samir, merci beaucoup.
Merci Gilbert, je voulais juste passer un petit coucou à mon fils, tu vois. Voilà, moi j'écoute l'After depuis 2009, et puis voilà, il a été éduqué à l'After, donc là il écoute, il va la podcaster demain parce que là il est au lit. Donc voilà.
Excellente éducation, bravo.
C'est lui qui prend le relais.
Salut Samir,
c'est quoi ton podcast de bagarre là?
Podcast Octogone depuis 2011, Gilbert.
Très bien.
Parfois ils sont devant l'After en téléchargement, ça faut
trouver un truc.
C'est pas arrivé deux trois fois ça?
Non, sur des épisodes, non.
Sur des épisodes,
ouais. Il faut 18 millions par mois, Octogone?
Non, pas par mois.
Non, du tout. On reboxe pas dans la même catégorie.
Ça marche, Samir. Merci. Allez, bonne soirée, à bientôt.
Salut, Samir.
Bonne soirée. Salut.
Dans un instant, les de retour, on fera l'évaluation. Et ensuite, il y aura Brest au programme. On aura peut-être Berzakarian un peu plus tard. Et puis, les autres matchs du jour, évidemment, supporters des clubs de Ligue 1, on vous attend. Le stand de RMC est ouvert, supporters de l'OM et de Brest, pour l'instant, toujours. Au programme dans l'after dans quelques instants, les de retour sur RMC.